Radio Foot International.
Olivier Prompt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International. C'est Sans la Dame ce lundi, parti avec quelques membres de son orchestre, donner deux représentations gratuites, je le précise, dans un pays dont on ne vous donnera pas le nom, en tout cas pas aujourd'hui, on le fera demain parce qu'on est comme ça. Dans l'actualité du foot, donc en ce début de semaine, la Ligue 1 évidemment, avec cet Olympico, en français, relativement chatoyant hier à Lyon, où l'OL recevait l'OM et Lyon a collé une bonne, 4-2 pour les Lyonnais, face aux Marseillais. Et dans ces cas-là, qui on invite? Un Marseillais. Banane. Enfin un ex. Bonjour Marc Livrard.
Bonjour à tous. J'ai bien fait de venir aujourd'hui, je pense.
Toujours bon de vous recevoir après une telle semaine phocéenne, défaite en Ligue Europa, puis en championnat, tout va bien. Pendant ce temps-là, le PSG, lui, déroule 6-6, 3-1 à Rennes hier, 6 matchs, 6 victoires. C'est sûr que la Ligue 1, c'est pas la Ligue des Champions, n'est-ce pas, Dominique Sévrac?
Effectivement, et tout ça en jouant une mi-temps sur deux, donc imaginez quoi.
Et ils ont joué une mi-temps sur deux hier ou
Les 6 fois. Ah oui. Les six matchs de Ligue 1, ils les ont gagnés en jouant une fois sur deux, 45 minutes.
Ouais, ça c'est pour s'économiser, ça c'est pas vu en Ligue des Champions, on en reparlera. Zéro pointé pour les Guingampais, en revanche le pire début d'exercice de leur histoire est forcément Antoine Camboire, chahuté, contesté. Direction l'Afrique également dans ce Radio Foot du lundi, il faut tout de même justifier la présence d'Hervé Penaud, non?
Hein? Mais moi si vous voulez, je suis multi-support, multi-carte, couteau suisse, je parle de tout. Afrique, PSG, Camboire, Marseille, tout ce que vous voulez. Bon, bonjour à tous, c'est le plaisir.
Le continent ce week-end, c'était notamment la fin des quarts de finale des Coupes d'Afrique des clubs.
Absolument.
Et en Ligue des Champions, ce coup de tonnerre avec l'élimination du TP Mazembe par les Angolais du Primeiro de Agosto. Coup de tonnerre aussi la sortie de Pierre-Emerick Aubameyang contre les dirigeants du foot gabonais qui avaient annoncé l'arrivée de son papa au poste de sélectionneur alors que celui-ci souhaitait encore réfléchir à la question et finalement il voulait dire non. Rififi aussi au Cameroun avec Benjamin Moukandjo, capitaine lors du titre de 2017, qui annonce sa retraite internationale, pas content qu'il ait de ne pas avoir été appelé par Clarence Seedorf, le nouveau sélectionneur. La raison de cette non-sélection, il joue en Chine et donc ne peut pas être compétitif. C'est un sujet. Enfin les amis, joie, bonheur, souvenirs, émotions. En fin d'émission, nous parlerons de ce livre aux éditions de l'Archipel, La deuxième étoile, le roman vrai de la victoire des Bleus lors de la Coupe du Monde. Livre co-écrit par deux journalistes du journal L'Équipe, décidément.
Oh, un bon journaliste alors.
Vraiment.
Merci à vous.
Arnaud Herman, qui n'est pas là parce qu'on ne lui a pas demandé, et Vincent Garcia, qui est là, lui. Il n'avait qu'un pont à traverser pour honorer son invitation. Vous avez reçu le Bristol?
Eh bien, bonsoir et merci beaucoup de m'inviter.
Mais voilà. C'est un plaisir, mon cher Vincent. Nous vous soumettrons à la question en fin d'émission sur ces Bleus champions du monde, mais on vous entendra bien avant, car vous faites partie de ceux qui suivent l'OM. Il ne sera pas seul, Marc Libra, depuis quelques saisons. Bon, allez, il faut y aller. Hein, on a traîné. David Finzel est à l'écoute. Laurent Salerno, manette, c'est parti. L'Olympico, donc, messieurs, longtemps équilibré, puis patatras, 1-1 à la pause, et d'un coup, ou presque, 4-1, puis finalement 4-2 au final. Et voilà Lyon qui recolle à l'OM, 6e au classement de la Ligue 1, juste un petit but d'écart, ce qui permet à l'OM d'être encore devant. Votre avis sur cet Olympico, un avis général, hein, on va reparler de Bertrand Traoré un peu plus en détail dans quelques minutes. Marc, je vous ai attaqué, je vous laisse parler en premier.
Non, mais il y a pas de surprise. Il y a une différence de talent, il y a une différence de qualité au niveau des joueurs qui est assez flagrante. Au vu de la première période, le 1-1 semble assez logique, on va dire. Et puis sur la seconde période, il ne se passe plus rien. Après, c'est difficile. Les individualités à Lyon, il y en a 5-6. Côté marseillais, oui. Puisqu'on ils prennent quand même deux buts assez rapidement. 50e, 61e, le match il est joué, il se passe plus rien. Alors c'est vrai que Ngie rentre, Germain rentre, il y a un petit peu, mais il se passe rien. Aujourd'hui, on peut pas être l'Olympique de Marseille et tourner sur deux joueurs, c'est-à-dire Thauvin et Payet. Ça s'arrête là. Alors on parlait du PSG qui joue que, mais Marseille c'est pareil, ça joue 20 minutes, 25 minutes, ça joue pas une mi-temps, ça joue la seconde. Là c'est pas possible à ce niveau-là. Et du côté de Lyon, ils ont été, c'est pas forcément un très grand match. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les individualités ont fait la différence et il y a plus de talent de l'autre côté.
On ira voir ceux qui suivent les Lyonnais après. Dominique, vous avez vu ce match?
Oui. Alors c'est quoi un avis général sur le match? Bon, c'était pas un grand match, mais c'est un match sympa avec un scénario. Il y a 6 buts, il y a un carton rouge, il y a la VAR qui intervient. Il s'est passé pas mal de choses, mais c'est pas un grand match parce que pour faire un grand match, faut être deux. Et Marseille, pour moi, n'a pas eu de répondant face à Lyon. Donc voilà, c'était comme ça. Mais sinon, bon petit match de Ligue 1 du dimanche soir, très sympa à suivre. Lyon grand gagnant de la semaine, Marseille grand perdant. On va y revenir, j'imagine.
Exactement, Vincent Garcia, vous étiez à ce match.
Eh oui.
Vous suivez l'OM, que dire, finalement, c'est une très mauvaise semaine, on va y revenir, mais c'est vrai que l'OM, on s'attendait à mieux.
Enfin, on s'attendait à mieux. On pouvait sentir quand même le coup arriver cette semaine avec la victoire de Lyon à City, la défaite de Marseille contre Francfort. Voilà, le rapport de force, il avait un petit peu changé avant le match, la confiance aussi. Et du coup, c'est vrai qu'on est, on peut être déçu par Marseille, mais honnêtement, vu la semaine, comment elle s'était passée, voilà, c'est logique. Marseille est venu avec ses armes du moment, en manquant quand même d'agressivité. Voilà, tout simplement, dans un grand match comme ça, il faut à un moment donné mettre de l'agressivité. Les cadres n'ont pas été au niveau, les jeunes non plus, et je suis un peu d'accord avec Marc, l'effectif de Lyon, Hervé est sûrement pas d'accord, mais je pense que l'effectif de Lyon est bien meilleur que celui de Marseille. Les jeunes sont meilleurs que les jeunes marseillais, et il y a autant de joueurs d'impact player et de voilà, Fekir, c'est un peu l'équivalent de Payet, de Paille devant est bien meilleur que Mitroglou, et chez les jeunes, on va avoir, bon, il y a pas l'équivalent à Marseille.
Dombélé,
il y a pas d'équivalent à Marseille.
On va en parler de la défense, évidemment.
Le sens, c'est que ça se retrouve pas dans la politique salariale, c'est-à-dire que l'effectif de Lyon est peut-être supérieur à celui de Marseille. Mais en revanche, Mitroglou, oui. Payet, Mandanda, Luis Gustavo et Strootman ont une, ces cinq-là, ils doivent représenter une masse salariale que ni Fekir, ni Depay, ni Traoré.
Ça, c'est autre chose. Alors, attention, bah, on donne des bons salaires, mais ça veut dire, Dominicain.
Oui, bien sûr. Je pense que globalement, c'est moins. Et ça veut dire, Marc, qu'il faut aussi payer les joueurs, alors juste talent.
Mais ça c'est la direction qui a fait des erreurs.
Terminons le tour de table et donc vous êtes d'accord, Hervé Penaud, avec Vincent Garcia qui a dit que vous ne seriez sûrement pas d'accord.
Un petit peu.
Non,
parce que je l'aurais été totalement l'année dernière, parce que ça a toujours été mon raisonnement, de dire que l'effectif lyonnais, vous pouvez pas me dire, même tout talentueux qu'il soit, ces joueurs peuvent pas avoir le niveau des Payet, mais même des Germain, même un joueur comme Germain, qui a je sais pas combien
d'années. L'année dernière, c'était dire que c'était inférieur Lyon.
Parce que l'année dernière, c'est les joueurs qui débutaient en Ligue 1. Alors, si un joueur qui a un an ou six mois de Ligue 1, il est meilleur que celui qu'on a 10, qui a été champion de France, qui a eu la Coupe de France, qui a joué en Angleterre, alors là, je pense qu'il y a un vrai problème.
Mais ça, c'est
non, je pense que c'est une gestion des hommes qui est différente.
Au 24 décembre 2018, on en est où? Au 24 septembre.
Et ben, je trouve que sur cette semaine-là, parce que le problème, c'est qu'il faut arrêter d'avoir des visions à long terme sur un effectif lyonnais, par exemple, qui a fait une super semaine, mais qui sortait quand même d'un mois d'août très difficile. Parce que c'est une équipe, le problème de la jeunesse, malheureusement, il est là. C'est-à-dire que vous pouvez pas avoir la constance. Est-ce qu'on peut attendre de joueurs de haut niveau, c'est la constance. On attend d'un Zidane après 5 ans, était pas le même Zidane que quand il a débuté. Pourtant, il était très talentueux. J'ai connu Ben Arfa à Lyon, qui est peut-être plus talentueux que les joueurs d'aujourd'hui. Quand il a débuté, tout le monde se disait qu'il va avoir une carrière exceptionnelle. Finalement, il n'a rien fait, à part une année à Nice. Enfin, rien fait par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'un tel talent. C'est-à-dire que c'est un effectif qui a du talent. Ça, personne ne le nie. Il y a des potentiels. Simplement, c'est un effectif qui a besoin de travailler ensemble, qui a besoin de se régénérer de temps en temps parce qu'ils ont des petits soucis d'égo, de trop plein de sur plein de confiance et de choses comme ça, qui fait qu'à un moment, effectivement, ils ont des hauts, ils ont des bas, mais il n'empêche que sur le talent pur des joueurs, évidemment, qu'ils ont peut-être plus de talent. Mais c'est à voir, parce que je regrette, mais celui qui m'avait dit au début, Strootman arrive à Marseille, ah ben c'est une pipe, tout le monde me disait même, ah ben Strootman, il pourrait peut-être jouer au Paris Saint-Germain, ça aurait pu être un élément pour le Paris Saint-Germain. Alors que quand Denayer est arrivé, par exemple, qui est une super pioche, pour l'instant en tout cas, pour l'instant, Denayer, tout le monde me disait, ah Denayer, c'est pas terrible, il s'est jamais imposé nulle part, il était à Manchester City. Donc après, il y a une manière aussi de les faire jouer en groupe. Et peut-être qu'en ce moment, c'est plus compliqué de faire jouer les joueurs de Marseille que ceux de Lyon ensemble.
Est-ce qu'hier, c'est Lyon qui a été bon ou Marseille pas bon?
Notamment, Marseille a été trahi par ses recrues hier. Strootman a été affreux. Celeta Tchar, ça fait deux matchs que je vois de lui. À Nîmes, c'était affreux. Il reprend le même but. Hier, c'est le but d'Aouar, je crois. Le premier but de Lyonnais, il reprend exactement le même but qu'à Nîmes. Il finit par un rouge qui va lui valoir, à mon avis, deux ou trois matchs de suspension, parce que la faute, elle est énorme.
C'est une agression pour lui. Il faut quand même dire. Je dis pas sur la faute, mais je dis mais s'intégrer dans un effectif où ça change tout le temps. Un jour vous avez Rami, machin se blesse. Après vous avez Luis Gustavo qui finalement descend puis on fait remonter au milieu de terrain. Je veux dire quand vous êtes une recrue qui est arrivée physiquement un peu en difficulté, ben c'est super dur de rentrer dans un effectif en difficulté. Donc maintenant on verra dans quelques mois ce qu'il sera capable de donner parce que on va pas le brûler tout de suite.
Il y a les recrues qu'on fait du mal. Et il y a l'absence de recrues. Moi, je suis désolé, mais Mitroglou. Moi, Mitroglou, on peut me dire, il a fait un super match à Monaco, tout ça, mais je vais pas me contenter de un bon match tous les 10 matchs, quoi. Moi, Mitroglou hier soir, c'est un fantôme. Dans un match comme ça, il ne pèse pas. Il a.
Depay hier fait un mauvais match. Ça n'empêche pas Lyon d'en mettre 4.
Ouais, enfin, à Marseille, on a quand même l'impression que ça a été dit tout à l'heure. Santovin et Payet.
Ça, c'est vrai. C'est les deux qui tirent l'équipe vers le haut. Et Dominique a raison. Les recrues sont un peu décevantes, même beaucoup très décevantes pour l'instant. Les cadres sont pas mieux. Luis Gustavo, il est complètement à côté et depuis longtemps. Alors après, Garcia s'entête à le mettre en défense centrale. Il s'entête, bon, parce que aussi il y a des blessés et que voilà. Mais il aime bien en défense centrale. Il pense que ça rassure un peu, voilà et tout. Mais on voit bien qu'il a pas les gestes du défenseur central. Et je suis même sûr qu'il ne veut pas jouer en défense centrale, qu'il en a marre en fait. Voilà.
On va revenir juste sur la défense de Marseille. Je voudrais juste qu'on boucle la boucle avec Lyon, parce que c'était le club qui avait la pression il y a 8 jours. Mmh. Bruno Genesio, il avait 2 matchs à gagner, ou alors
vous pouvez les pointer. Ça n'a rien changé, Olivier. Je pense que
ça n'a rien changé.
Pour moi, le Genesio bashing est une part d'irrationnel.
Club avait quand même bien traîné les pieds pour le.
Moi, je pense qu'on est dans l'élite sale gueule. Je pense que quoi qu'il fasse, les gens diront il a pas de charisme, il est nul, je sais pas quoi. Il peut gagner 8-0 à City et 14-0 hier contre Marseille. Pour moi, ça ne changera rien. Donc, ça lui enlève rien, ça lui rajoute rien.
Reste que Lyon a décroché 2 très grands.
Mais parce que c'est un bon entraîneur et que
Lyon est revenu.
Le Genesio bashing est assez important, mais qu'est-ce qui a changé en une semaine? Qu'est-ce qui s'est passé à Caen? C'est-à-dire que les joueurs ne veulent pas jouer, donc quand ils veulent flinguer leur entraîneur, et pour moi c'est le cas, qu'est-ce qui se passe?
Non, tu peux pas dire qu'ils veulent flinguer leur entraîneur.
Je vais finir.
Monsieur Penaud.
Quand tu es capable de faire de telles prestations, quand tu es capable de marcher à Caen et de pas jouer, et que tu es capable de faire une prestation comme tu l'as fait à City, qui pour moi est un très grand, aller les prendre à la gorge et les presser. Ils ont tous les petits beepers, tu sais, sur eux, ils ont fait 18 km de plus par rapport. Non mais ça veut tout dire, tu n'as rien à faire de ton entraîneur. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux.
Comment tu peux dire ça? Alors
pourquoi
explique-moi.
Pourquoi Lyon, la saison passée, alors, ne réussit pas à être deuxième?
Je vais te poser une question très simple. Explique-moi pourquoi ils sont allés égaliser contre Caen. S'ils n'en ont rien à foutre, ils perdent le match à Caen, ils disent, s'ils peuvent être virés,
on sera bien. Mais t'égalises sous quelles conditions? Tu as un rouge qui t'aide, autrement tu reviens pas dans la rencontre, t'es plus dans le jeu.
Mais non, mais ils ont
bien égalisé. Ils marchent les joueurs, mais tu le vois bien.
Mais s'ils veulent ne pas jouer, si tu me dis qu'on veut détruire un entraîneur, mais perd à Caen.
Mais c'est pas,
c'est simple, il marquait à la 82e.
Mais t'as pas besoin de perdre forcément. L'attitude, tu la vois déjà.
C'est le principe même des jeunes. C'est-à-dire qu'à un moment, quand ils étaient pas dans le match, mentalement, et on l'a vu sur la première touche de balle de Traoré, qui a sauté sur City, faut pas l'oublier. Première balle de Traoré, il prend la balle, elle part. C'est normal ou pas normal. Ce que je veux dire par là, c'est quand tu sais les joueurs, ce qu'ils disent de Genesio, et ce qu'ils veulent, et ce qu'ils disent in et off, et ben tu sais qu'ils sont derrière lui, et on et off, tu sais qu'ils sont derrière lui.
Je pense qu'Hervé, il y a un malentendu. Effectivement, j'ai l'impression que Lyon, moi, choisit ses matchs. Les Lyonnais choisissent leurs matchs. Pas forcément
contre Genesio.
Non, mais lui, c'est contre Genesio.
Oui, moi, mais je pense que ça sera le fusible.
Ça sera le fusible, quoi qu'il arrive. Toujours.
Olas, en 30 ans de présidence, il en a utilisé 2. Hein, Fournier et Guy Stéphane.
Oui, et un seul en cours de saison.
Ouais, 2. Fournier à la trêve et Guy Stéphane.
Ah, c'est à la trêve, Fournier.
Ouais.
Alors, Genesio, moi, j'ai adoré son discours après City. Je sais pas ce que t'en penses, Hervé. Le discours de Genesio, je trouve que c'est quelqu'un de très humble, finalement. Dans la victoire à City, il a été. Non, mais voilà, moi, je suis pas Lyon et je me rends peut-être pas compte au quotidien de comment il est. J'ai trouvé son discours très, très humble.
Mais parce qu'il sait. Voilà. Il sait exactement ce qu'il en est. Il a rien changé à son travail entre la semaine d'avant et la semaine d'après. C'est-à-dire que c'est le même entraîneur.
Donc, tactiquement, il a changé des choses, non? Le 4-4.
Le 4-4-1, c'est un très bon coup parce qu'il a bien analysé le jeu de City. Mais enfin, je veux dire, il fallait pas être un génie absolu pour savoir qu'il y avait problème du côté Delphes sur le côté gauche. C'est quand même un entraîneur de haut niveau. Simplement, il y a eu une gestion de cette semaine de crise, par Olas notamment, parce que là, à un moment, il faut mettre aussi en valeur le président. C'est-à-dire, dès la sortie du match contre Caen, il a mis en avant Fekir, en faisant un tweet, alors comme il en a l'habitude, hein, pour dire Fekir, on compte sur toi, tu vas remonter l'équipe, etc. Il l'avait vu après le match, comme il y avait pas mal de petits Fekir bashing à ce moment-là, en disant Fekir, ça va mal, etc. Lui, il l'a tout de suite mis en avant Fekir. Après, le lendemain, il allait voir les joueurs, hop, ils sont remobilisés. Après le match contre City, il a mis en avant Genesio, chacun son tour. Il a mis le joueur qui était le joueur cadre le plus important pour lui. Il a mis Genesio. Et puis après, ça a fait une semaine où tout le monde s'est serré les coudes. On a eu l'impression qu'il y a une solidarité incroyable. Et tous les joueurs ont été dans cet impact-là. Maintenant, il faudra voir contre Dijon, parce que maintenant, c'est un autre type de match.
Oui, mais c'est aussi les défauts de la Genèse, parce que ça reste une équipe qui a aussi sûr. Un an de plus, ou 8 matchs de plus. Mais l'année dernière, elle était jeune, elle a pas pris non plus 15 ans d'expérience. D'un coup, Ndombele, qui fait pour moi un super match.
Ndombele, excellent.
Qui est super joueur, je me demande pourquoi le PSG, qui truste pas comme le Bayern, les meilleurs joueurs de Ligue 1, pourquoi ils ont un problème,
ça
de,
va venir, peut-être.
Ils ont un problème de Ligue, ils ont un problème de milieu. Allez chercher les milieux qui sont bons en Ligue 1.
Ça fait pas rêver. Non,
mais je m'en fous. Il est bon.
Pour les dirigeants,
ça fait plus rêver que Rabiot.
Le gars est bon. Et donc, voilà, ces joueurs-là, ils peuvent très bien sombrer à Dijon parce qu'ils ont une manière d'inconstance liée à leur découverte du haut niveau.
Petit coup de projecteur sur un double buteur hier, l'homme du match, sans doute. Bien sûr, on est sur RFI. Tout ce qui touche à l'Afrique nous intéresse, et particulièrement pour le bobolet que je suis. Bertrand Traoré, donc, était le héros de la soirée. On l'écoute.
Voilà, c'était un match sérieux de la part de toute l'équipe. Personnellement, c'était un match un peu particulier parce que j'étais un peu déçu de ne pas avoir commencé le match contre City. Et voilà, j'avais l'opportunité ce soir de montrer mes qualités, mes capacités. Et je pense que je l'ai bien fait et je suis content. Je suis un compétiteur. Si je suis venu à Lyon, c'est pour voilà, franchir un palier, pour jouer la Champions League, jouer les grands matchs. Et voilà.
Et c'est pour jouer les grands matchs et voilà, il a été tellement vexé de ne pas jouer à City. Bah finalement, c'est presque un joli coup qu'a réussi Genesio sur ce coup-là. Il le fait pas jouer à City et donc il arrive très revanchard, Bertrand Traoré, et il marque 2 buts et provoque un pénalty. On peut difficilement faire mieux.
Il a été titulaire à chaque rencontre de championnat,
oui,
hein, pour l'instant.
C'est pour ça qu'il, d'où la déception de ne pas jouer à City.
Et c'est vrai, j'en avais discuté avec lui et il avait sur le cœur de faire un gros match en revenant d'Angleterre, parce qu'il faut pas oublier que lui avait été acheté par Chelsea, il avait signé son premier contrat. Chelsea, il a très peu joué en Angleterre, et pour lui, il voulait remarquer, entre guillemets, son territoire. Et il n'a pas joué. Finalement, le choix, quand même, s'est avéré payant de la part de Genesio, en utilisant Cornet, mais pour une idée précise, qui était le travail de Cornet, qui est quelqu'un qui peut vous avaler des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Traoré a moins cette capacité-là, même s'il fait beaucoup d'efforts. Hein. C'est pas quelqu'un qui laisse son défenseur de côté,
moins
de volume de jeu, tout simplement. Mais par contre, il a une qualité technique supérieure, et cette capacité à marquer des buts, parce que le premier but qu'il met, son enroulé, c'est classique chez lui, mais c'est vraiment magnifique. Puis ça fait plaisir de le voir, parce que c'est quand même un bon gars.
Il a été bien aidé par un Jordan Amavi qui a été complètement, complètement pris tout le match. Hein. Ça a commencé dès la deuxième minute, je crois. Il y a un décalage sur la droite, dans le dos d'Amavi, et déjà, il est perdu.
Je vais être obligé de défendre Amavi.
C'est
difficile.
Il a eu 4 dans l'équipe. Donc,
j'ai reçu un mail d'ailleurs tout à l'heure d'un lecteur qui trouvait que la note d'Amavi était assez gentille, pour tout dire. Moi, je trouve qu'il a fait 50 bonnes premières minutes, Amavi. Honnêtement, 50 bonnes premières. Sur le premier but, c'est Gustavo le fautif. Sanson aussi. Et Kaletaka.
Je voudrais juste donner, justement.
Effectivement, il coule comme toute l'équipe à partir du second but. Voilà.
On arrive sur cette défense de l'OM. C'est laquelle le problème? On a rendu hommage à Bertrand Traoré. On espère qu'il en marquera d'autres et qu'il jouera contre City au match retour.
Il tentera d'avoir le prix RFI à la fin de l'année.
On en serait ravis tous, hein. Mais enfin, il y a encore un petit peu de temps. La défense, je voudrais juste planter le décor. Ils sont 5e de Ligue 1, les Marseillais. C'est pourtant la 18e défense de Ligue 1. Guingamp, hein, dont on parlera dans quelques minutes, encaissé 17 buts, Nîmes 13. Et donc les Marseillais, 11 plus 2 en Ligue 1. On est pratiquement à 2 buts en moyenne encaissés par match. On rappelle qu'Adil Rami est blessé. Chaleta Akar a été expulsé hier. Mandanda est remplacé par Pelé.
Enfin, différente en 7 matchs.
Ouais. Eh ben voilà.
Voilà. Donc déjà pour la stabilité d'une défense, c'est pas le top. Alors il y a eu les méformes, il y a eu peut-être sûrement que l'entraîneur a fait aussi quelques erreurs. Lancer Kaleta Kar à Nîmes alors qu'il est pas en forme et qu'il est en surpoids. Bon, effectivement,
comme
c'était
Rami,
pas la meilleure idée.
Rami n'était pas prêt.
Personne n'était prêt.
Voilà. Bon, il y a eu quelques erreurs. Après, victime des méformes, victime des blessures. Voilà, donc cette espèce de bricolage en défense centrale, forcément que ça explique aussi les difficultés marseillaises. Concernant voilà Mandanda est pelé. Effectivement, Mandanda c'est une perte aussi parce que Mandanda reste quand même quoi qu'on dise supérieur à Johan Pelé.
Il a 3 champions du monde, il a déjà 2 sur le flanc, Rami et Mandanda, et tout le monde sait que après une Coupe du Monde, faut faire hyper gaffe. Lui, il l'a lancé hyper. Il les a
mais
lancés.
D'autres ont été lancés plus tôt. Griezmann a été lancé plus tôt avec l'Atlético. Il est pas blessé.
Oui, mais Tolisso s'est fait les croisés.
Thauvin,
il
rentre
pas un bon début de saison. Même si c'est le meilleur buteur du championnat, il fait pas un bon début de saison, Thauvin.
Ouais, mais il marque
beaucoup de matchs.
Alors écoutons Rudy Garcia qui veut, vu que sa défense prend l'eau, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On ferme les vannes.
On n'a pas été efficace dans les zones de vérité, ni derrière, ni devant. On a deux grosses occasions, une de Lucas, mais qui est pas facile à cadrer. Et puis une de Valère aussi à la fin, qui peut nous remettre dans le match. On a fait de bonnes choses dans l'ensemble, mais on n'a pas été assez solide sur la continuité. On avait déjà pris deux buts à Monaco. On a encore pris deux jeudi. Donc il va être temps de fermer les vannes, comme on dit.
Il va être temps de fermer les vannes. En a-t-il les moyens? Quelles sont les solutions?
Mais quelle vanne? Le problème, c'est que même Rami est très moyen, quoi qu'il arrive. La saison passée, elle tourne sur quoi? Sur trois joueurs avec un Gustavo qui a été exceptionnel. Est-ce que vous pensez vraiment que Gustavo peut refaire la même saison?
On me dit, ce poste-là,
ça tient la route. Et aujourd'hui, quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non, hier, les réflexes qu'il a eu, c'est les réflexes d'un milieu défensif qui sort de sa défense. Mais on peut pas lui en vouloir. Il en veut plus. Le petit Camara, il démarre la saison face à Toulouse. Première mi-temps, nul, comme tous les Marseillais. Seconde, magnifique. Après à Nîmes, d'un coup il ressort du groupe. On ne comprend pas pourquoi. Encore une fois, hier à l'heure, c'est quoi, 65e, d'un coup petit Camara qui rentre en défense, on remet. Mais c'est trop tard, c'est fini. C'est fini ça. On peut plus faire ça. Aujourd'hui, le haut niveau, on peut pas être à 60%. C'est fini. Non mais là, il n'y a pas d'évolution. Mais t'en as pas d'évolution.
Rami est blessé. Moi, je pense que Rami, c'est encore un footballeur d'un certain bon niveau.
Mais il faut qu'il redevienne footballeur.
Voilà, il faut qu'il redevienne footballeur parce qu'il est parti sur d'autres. Peut-être qu'il pense à l'après,
Dominique,
au showman qu'il est.
Dominique, attention. Il a toujours été comme ça. Mais s'il n'est pas à 100% un joueur aujourd'hui, c'est fini. Tu peux faire ce que tu veux. Et c'est le béaba. Et quand tu arrives à la trentaine, un mec comme Rami, il me dit, ouais, mais il n'a pas joué la Coupe du Monde. Mais mentalement, ce qui s'est passé, l'euphorie. Mais bien sûr, tu t'investis. On me dit,
le problème avec Rami, c'est que moi, j'ai l'impression.
Et on termine sur ce match.
Oui, sur l'aspect. Parce que pour moi, c'est capital, Rami, pour eux. Parce qu'il faut que Rami revienne pour eux et revienne en tant que footballeur professionnel. Et pas simplement égérie de mode ou je sais pas trop quoi. Parce que j'ai l'impression que le problème de Rami, il a une carrière complètement invraisemblable. C'est quelqu'un qui vient de rien. Il est devenu champion du monde, puis à un moment, vous avez atteint le Graal. C'est-à-dire, le champion du monde, il part en vacances Los Angeles avec madame. Je pense qu'ils ont des soirées sympathiques.
Non, mais Hervé, alors j'arrête tout de suite. Rami est un grand, grand, grand travailleur.
Mais je dis
alors,
pas ça,
alors, pendant les vacances à Los Angeles, Rami, il s'est entretenu tous les jours. Alors, il fait peut-être pas tout bien, mais c'est un dingue de sport. Il s'entraîne du matin au soir.
On l'apprend dans votre livre, voilà, d'ailleurs, qu'il était le premier à la salle de sport tous les matins.
C'est pas ça que je voulais dire, moi.
Qu'il soit à la Coupe du Monde, pourquoi pas.
Mais non, mais c'est même pas Coupe du Monde. C'est quand, à un moment, il y a une sorte de décrue. Et moi, je me dis, mentalement, il faut qu'il se remette dans le côté footballeur professionnel. Du sport, il en fera tout le temps. Il aura 50 ans.
Enfin, Pamela Anderson, elle était au Vélodrome l'année dernière et il faisait des bons matchs, quoi. Enfin, c'est ça que je veux dire.
Oui, mais il n'était pas champion du monde encore.
Oui.
Mais est-ce qu'il est posé parce qu'il y avait un Luis Gustavo devant qui aidait bien aussi?
Oui. Oui,
c'est ça.
Oui, en fin de saison, il a fini avec Luis Gustavo aussi en charnière centrale. Donc
Lyon va mieux, tant mieux pour eux. On peut s'inquiéter un peu pour Marseille qui donne pas tous les gages, et on rappelle cette défaite face à Francfort déjà jeudi qui était annonciatrice sans doute du naufrage d'hier. Je voudrais juste qu'on dise tous un mot. Vous me l'avez rappelé au moment où débutait le générique de cette émission, ce tract des supporters de l'OL. Là, on est dans la bêtise la plus totale. Eux au moins sont à 100% dans la crétinerie. Les bad guns, c'est ça, comme on les appelle, avec un tract d'avant-match distribué dans les tribunes. Vous m'arrêtez si je me trompe.
C'est le virage nord, non?
C'est bad guns, ils mettent.
Si, bad guns.
Un tract qui nous dit que Marseille est la ville du sida. Enfin bon, vous devez le trouver. Vous devez le trouver sur les réseaux sociaux. Cherchez, vous allez voir, c'est accablant.
On ne sait toujours pas si c'est un fake ou si c'est avéré. Alors Ola, ça en a parlé après le match. Mais peut-être qu'il n'a fait que répondre à une question. Et donc, on ne sait pas, à l'heure où on se parle, si c'est vraiment encore une espèce de mythe qui circule via les réseaux sociaux, ou si ça a vraiment physiquement eu lieu avec un tract dans les tribunes.
Enfin, juste, je te rappelle que la semaine de Lyon, au niveau du supporterisme, elle est quand même catastrophique. Il y a le salut nazi en Angleterre. Il y a les bagarres hier dans les travées sur le but marseillais. Ce tract... Il est crédible, en tout cas.
Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que toi, t'étais au stade?
Honnêtement, je l'ai pas vu.
Ouais.
Donc, effectivement.
On aura l'occasion de reparler s'il s'avère que ce tract a été effectivement distribué parce qu'il est tout simplement.
Il y a des zones d'ombre et c'est difficile.
Ce qui est plus choquant, c'est les bagarres. C'est les bagarres sur le but de Marseille. Le tract est choquant, évidemment, mais les bagarres sur le but de Marseille, les gens qui courent dans les travées, qui reviennent à leur place sans être inquiétés. Alors peut-être qu'ils le seront avec la vidéosurveillance. Peut-être qu'ils seront interdits au stade.
C'est un stade qui est suspendu en Coupe d'Europe.
Exactement.
Il y a vraiment souvent.
Et pas pour des fumigènes.
Non, il y a souvent, il y a souvent des soucis dans ce stade qui a voulu, l'architecte a voulu qu'il soit très ouvert, qu'on puisse circuler, tout ça. C'est super. Moi, je trouve qu'il est magnifique, ce stade. Mais il pose des problèmes de sécurité. Il y en a eu en finale de la Coupe de la Ligue, PSG Monaco. Voilà. Donc.
La Ligue Europa.
Le problème, c'est que les supporters marseillais étaient interdits normalement et ils sont venus dans les tribunes où il y avait des Lyonnais.
Non, attends. Marseillais étaient au stade. Donc, des papas, des avec leurs enfants.
Pas dit le contrat, hein.
Non, mais façon de parler, ce ne sont pas des ultras, des
Ah, mais moi, je sais pas.
Quand j'ai ultra, ce ne sont pas des vrais supporters officiels, ce sont des personnes qui ont eu des places par des gens de Lyon, ils sont allés voir. Marseille a marqué, ils ont fait, ouais, ils se sont venus, ils se sont fait massacrer. Ils ont été mis dehors. Ils se sont fait vraiment massacrer. Donc là, à un moment donné, c'est très, très compliqué. Et ce stade, c'est la vérité, puisque j'ai eu la chance de présenter la finale,
De
la Ligue Europa sur RFI. Mon fils était à l'opposé. En 10 minutes, il était l'autre posé, il est venu me faire un coucou, il est reparti. Je dis, mais comment tu as fait? Il me dit, mais je suis en face, mais il est venu tranquillement, il a fait le tour, il a enjambé, il est venu. Tu vois, ça, c'est un gros problème. C'est malheureux, mais dans certains stades, ben, tu as des catégories, des parcages, mais là, en fait, mon fils est avec tous les Marseillais, il a fait tout le tour. Dans la tribune, il est venu, et c'est vrai, comme le dit Dominique aujourd'hui, il est conçu, c'est bien conçu, mais ça, il faudrait pouvoir fermer parce que là, c'est pas possible.
On ferme sur cet Olympico, et si on a des nouvelles de ce tract abject, on en reparlera. Paris dans tout ça, puisque on parlait de deux équipes qui, on le rappelle, sont 5e et 6e du championnat, avec 10 points, Paris en compte 18. C'est-à-dire qu'on est, j'allais dire, non, 6e du championnat, ouais, à peu près. 6 journées de jouer sur 38, et Paris a 18 points
quand tu mets 8 points en 6 journées.
6 sur 6, victoire à Rennes hier, Rabiot contre son camp, puis Di Maria, Meunier et Eric Maxime Choupo-Moting. On écoute Marquinhos parce qu'on rappelle quand même que cette victoire face à un adversaire qui réussissait pas toujours au Paris Saint-Germain, cette victoire elle arrive après une défaite contrariante, on va dire ça comme ça, en Ligue des Champions à Liverpool. On écoute Marquinhos.
C'est bien après une défaite à l'extérieur, en Champions League surtout contre un grand adversaire, c'est le plus important, c'était de venir ici et rebondir et montrer de caractère et gagner surtout, c'est important. Avec la victoire, ça te redonne la joie, ça te redonne de confiance. Comme j'ai dit, il faut gagner, et surtout pas que gagner, mais il faut gagner avec des bonnes prestations. On sait à toujours s'améliorer pour faire des gros matchs après en Europe.
Là, pour le coup, c'est un discours convenu, on est d'accord, ça change pas grand-chose, c'est pas une surprise, heureusement qu'ils vont encore gagner tout en Ligue 1 avec leur effectif. Est-ce que ça change quelque chose par rapport au match? Est-ce que ça va les remettre dans le sens de la marche? Il est gentil Marquinhos, mais il nous prend pour des trompettes.
Non, parce que cette histoire de croire que parce que vous êtes Paris Saint-Germain, vous avez tout gagné, alors championnat, oui, vous allez être champion, mais enfin, vous avez le droit de perdre à Rennes. Rennes, c'est une équipe qui a mené, c'est une équipe qui a des joueurs qui vont super vite devant, on sait jamais ce qui peut se passer, et quant aux coupes, s'il y a bien un endroit où vous pouvez perdre, c'est bien en coupe. Et c'est là où je trouve que le Paris Saint-Germain est très fort en France, mentalement. C'est que les gars, ils veulent rien lâcher. Et ça, c'est pas évident. Parce que quand vous avez une telle supériorité sur des équipes qui, à première vue, sont faibles, et ben souvent, vous êtes un petit peu moins dans le coup. On l'a vu pour Marseille, on l'a vu pour Lyon, à Caen. Et ben eux, ils lâchent un peu, mais pas le Paris Saint-Germain. Et voilà la différence entre le très haut niveau et le bon niveau.
Ils ont 6 matchs, 6 victoires, c'est conforme, de toute façon.
Ils ont ce rêve secret de finir la saison invaincue. Ça fait très très longtemps que c'est pas arrivé dans le championnat de France. Donc voilà, c'est ce genre de challenge qui se fixe entre eux. Et puis ça peut arriver, une chute, complètement, comme l'a dit Hervé, ça peut tout à fait arriver. Non, c'est bien.
Après le rapport avec la Ligue des Champions, bon, voilà.
Non, mais de toute façon, on peut entre guillemets vomir sur le Paris Saint-Germain en Ligue 1. De toute façon, ils ont que ça pour jouer. Ils ont 38 journées, ils vont les faire. Il y a que là qu'ils peuvent s'améliorer. Tout ce qu'ils vont tester en Coupe d'Europe, ils vont d'abord le tester en championnat. Comme quand Tourelle a l'idée de mettre Marquinhos en sentinelle, bon, bah c'est d'abord en championnat qu'il le teste. C'est quand même là, c'est son pain quotidien, quoi. Et Tourelle l'a dit dans une interview à l'équipe la semaine dernière. Il a dit, moi, j'ai pas d'objectif en Ligue des Champions. On va pas demander de la gagner, mais d'abord, on doit d'abord gagner le championnat. Et en Allemagne, par exemple, le pays dont il est issu, le Bayern Munich, il pense d'abord à être champion d'Allemagne avant de se dire qu'il va gagner la Ligue des Champions. Et c'est de mettre un peu les choses, dans l'ordre. Parce qu'au Paris Saint-Germain, on a l'impression que s'il gagne pas la Ligue des Champions, tout le reste, est décrédibilisé. Mais c'est le club aussi qui instille cette idée-là dans l'esprit des supporters, des journalistes. On a l'impression que, en dehors de la Ligue des Champions, il n'y a rien à faire. Et donc, dès qu'il y a une défaite en Ligue des Champions, bah, c'est fini. La saison est terminée. L'envie est terminée. Les gens s'arrêtent. Ben non, c'est pas comme ça que ça ne marche.
C'est pas comme ça que ça marche, mais quand tu as Neymar, quand tu as Mbappé, quand tu as Buffon qui te rejoint, quand tu as des Marquinhos, des Silva, tu avais des Maxwell, c'est pour la gagner. Là, il faut pas nous raconter des bêtises.
Il y a qu'un seul vainqueur chaque année. Hein.
Ah mais
ça peut être le Real Madrid, hein, c'est pas honteux.
Ah bon, bah alors, donc d'accord, donc les ambitions du PSG, il faut qu'ils revoient la baisse de gagner que la Ligue 1, si je t'écoute, c'est ça ?
Non, mais il faut pas qu'il y ait qu'une obsession de la Ligue des Champions.
Mais t'es obligé de l'avoir.
Oui, mais ils espèrent la gagner.
Ils sont donnés les moyens.
Mais je suis assez d'accord.
Ils en ont rien à faire de la Ligue 1 parce que c'est tel, ils sont tellement au-dessus, ils sont tellement au-dessus.
Prenons un exemple tout bête. Manchester City-Lyon, il y a autant de différences qu'entre Paris Saint-Germain et Rennes.
Oui.
Donc je veux dire, et Lyon a gagné à City. Et personne dit, bah, City, ce Guardiola qui a le pipe. Guardiola, il n'a même pas gagné la Ligue des Champions avec City. Ils ont dépensé 1 milliard 320 millions d'euros depuis qu'ils sont là-bas. Ouais. 1 milliard 320 millions d'euros. Et pourtant, ils ne sont pas champions.
Ils n'ont pas gagné avec le Bayern non plus.
Après, Dominique, moi, si je peux me permettre, je trouve qu'il y a une façon de sortir en Ligue des Champions. T'es pas obligé de la gagner. Il y a une façon de sortir, voilà. Il y a une façon d'être éliminé.
Et
ça fait des années qu'on n'a pas ressenti cette émotion.
Champion, voilà. Il se passe rien, voilà. Il donne rien, voilà. Le PSG ne donne pas. Voilà. Et ça, je suis d'accord avec toi.
Allez, on avance et on rend quand même hommage au dernier buteur de cette journée d'hier, le Camerounais Eric Maxime Choupo-Moting, arrivé de Stoke City à la fin du mercato pour beaucoup de nos auditeurs. Encore qu'en Afrique, il est Camerounais, donc il est connu, mais enfin, beaucoup de gens se disaient qu'est-ce que c'est que ce joueur qui débarque. 5 minutes de jeu sous le maillot du PSG et un but, on rappelle. C'est l'ami David Finzel qui est allé nous chercher ça. 5 minutes de jeu en Ligue 1. Ibra avait marqué au bout de 60 minutes. Ouais. Neymar au bout de 82. Il marque au bout de 5, on l'écoute.
Neymar, l'accélération, il a résisté à Ismaël Assar, peut servir Thomas Meunier, le centre de Thomas Meunier. Une grande première pour l'attaquant camerounais.
Personnellement, je me sens très très bien. Ils m'ont très très bien accueilli, tous les joueurs, toute l'équipe, tout le staff. Dès que je joue, dès que j'ai ma chance sur le terrain, je donne 100% et je vais juste aider l'équipe, montrer mes qualités. Et je suis très content que ça a bien marché. Le PSG, c'est une très très grande équipe. Et c'est normal que tous les gens en dehors du club... attends, peut-être les vrais ou très très grands noms, mais moi je connais mes qualités, j'étais depuis longtemps en contact avec le coach, je crois en moi-même avec mes qualités et moi je savais que je peux aider l'équipe, je vais tout faire pour continuer comme ça.
Il va tout faire pour continuer comme ça. Ben voilà, c'est une bonne entrée.
Écoutez, c'est pour l'instant entre Bernat, Buffon qu'on voit une fois sur deux, et pour l'instant pas dans les gros matchs parce que c'est Areola qui les joue. Choupo-Moting, moi je l'ai vu 2 fois 10 minutes cette semaine. Alors c'est que 2 fois 10 minutes, mais c'est vachement bien ce qu'il a fait à Liverpool. C'est quand il est rentré qu'il s'est passé enfin quelque chose entre Neymar et Mbappé dans l'animation offensive. Et lui, ses appels ont permis d'étirer la défense de Liverpool. Donc ça, c'était super. Et ce qu'il fait à Rennes hier, en 4-4-2 parce que Tourelle était passé en 4-4-2, c'est très très bien aussi. Moi, je suis épaté par ce joueur. On me dit il a raté sa carrière, il a 29 ans. Mais non, ça a l'air d'être vraiment une bonne pioche.
Mais
garçon,
Dominique,
quoi.
Tu sais pourquoi? Parce qu'il est plein de bonne volonté, il court partout, il a envie, c'est tout. Sur l'entrée à Liverpool, il se met à jouer, enfin il court partout et là c'est pareil. Donc dès que t'as quelqu'un qui fait les efforts un petit peu différents et qui se bouge, c'est-à-dire, t'as envie de le suivre. Moi, c'est ce que je ressens quand je le vois.
Ça serait bien qu'il l'inculque aux autres.
Je suis d'accord avec toi.
Plus jeune, je pensais qu'il aurait une carrière encore plus impressionnante. Ouais, hein, parce qu'il avait du potentiel, hein, 23-24 ans. Quand je l'ai connu en équipe du Cameroun, en plus c'est un super gars, mec très très intelligent. Alors il manque un peu de vitesse. Hein, c'est pas quelqu'un de très rapide. Mais en revanche, pour lui prendre la balle, faut se lever tôt parce qu'il est costaud physiquement, c'est une bête. Il fait les efforts, mentalement il est là.
Son but n'est pas facile à mettre, je trouve.
Non, il va vite.
Il a un bon contrôle.
C'est un contrôle qui lui permet de marquer.
Ouais. C'est pas donné à tout le monde.
On aura l'occasion d'en reparler, comme on aura l'occasion de reparler de Guingamp, parce qu'on s'intéresse parfois aux derniers, les Guingampais. Finalement, on va passer à autre chose très vite. Ils sont 20e, on le rappelle, 6 matchs, 6 défaites. Et Antoine Comboiré, contesté par une partie des supporters, a été maintenu dans son rôle par le président Guingampais. 4 buts marqués, 17 encaissés. Je ne sais pas quelles sont les statistiques, mais je crois que les chances de maintien après 6 défaites,
il n'y en a aucune. C'est 4 voilà. sur 15. C'est Toulon en 92 qui s'est sauvé.
Avant le match contre Avant
le match.
C'était 4 sur 15.
Allez, on file en Afrique. On va dérouler les thèmes et demander à Hervé Penaud son avis. On rappelle qu'il y avait les Coupes d'Afrique des clubs ce week-end, la Ligue des Champions. On connaît les demi-finalistes, donc le National du Caire du Caire, Al-Ahli, comme on le dit. 8 titres, hein, qui a battu le Oroya de Conakry 4-0, sera en demi face à l'Entente de Sétif, qui a sorti le WAC, le champion en titre. Et puis l'autre demi-finale opposera, eh bien, l'Espérance de Tunis, bon, du classique. Alors là, une surprise, Primeiro de Agosto, c'est un club angolais, c'était la première fois qu'il apparaissait en quart de finale de la Ligue des Champions, et le Primeiro de Agosto a sorti, bah, pas n'importe qui, le tout-puissant Mazembe, qui restait quand même sur 3 titres continentaux, hein. La Ligue des Champions 2015 et 2016-2017, deux fois la Coupe de la Confédération. Gros couac pour Pamphile Mihayo.
Ah oui, gros couac. Et puis surtout que c'était bien parti, hein, puisqu'il marque d'entrée Koulibaly, un superbe but d'ailleurs. Et puis alors, il y a eu un truc incroyable, c'est que dans le même match, ils ont raté 2 pénaltys. Non mais c'est un truc rarissime, c'est rarissime. Le gardien angolais a arrêté 2 balles, c'est 2 fois les pénaltys. Ils ont eu quand même des occasions de s'imposer. Ils marquent le premier but, le stade en plus, il y avait une chaude ambiance, hein, et on a l'impression que ça aurait pu passer. Et puis finalement, non, ça a bloqué complètement. Mais je pense que le fait d'avoir raté ces 2 pénaltys, ça les a mis complètement en vrac. En plus, là, je parlerai même pas de la présence ou non, hein, du président, hein, de Moïse Katumbi, hein, du président du TP Mazembe. On connaît la situation. Et surtout que là, ils avaient, parce que parfois, ça m'est arrivé de dire que le fait qu'il soit pas là, ça a pu entraîner des petits problèmes parce qu'il a un côté motivateur incroyable. Mais là, c'est pas le cas. Là, ils avaient les armes en main pour s'imposer. Ils l'ont pas fait. Ça paraît invraisemblable. De la même manière que le WAC qui a tiré, doit tirer 24 fois au but. Il marque 0 but, c'est 0-0. Il y avait une ambiance de feu à Casablanca. Et pareil, impossible de marquer, le gardien a tout arrêté. On se retrouve avec, pour moi, les équipes qui faisaient partie des favorites.
Al-Ahli, donc les Égyptiens, pour un 9e titre. L'Entente Sétif, ça c'est une sacrée belle demi-finale. Après, on a plus d'inconnus sur Primeiro de Agosto, Espérance Tunis.
Si j'avais une pièce quand même, c'est que les Égyptiens sont très très forts, même en Coupe de la Confédération. Ils vont être durs avec Masri, ils vont être durs.
On va en dire un mot. D'accord. Match aller de ces demi-finales 2 octobre, match retour le 23 octobre.
Mais depuis que Carteron est là, il faut dire franchement que ce qui se passe à la tête de Al-Ahli, c'est impressionnant.
Ils sont tout simplement invaincu. Puis qu'il est arrivé, on doit être à 14 matchs maintenant.
Invaincu et gagné 4-0 de cette manière-là. Alors Oroya, effectivement, c'est la première fois depuis plus de 40 ans qu'ils arrivaient là. Alors dans une autre formule, hein, dans une autre formule de Ligue des Champions africaine, mais c'est vrai qu'ils ont réussi un gros coup. Et aujourd'hui, il me semble un peu les favoris pour la victoire.
Et la Coupe de la Confédération, les Nigérians d'Enimba, ça c'est un sacré retour au plus haut niveau en demi-finale face au Raja de Casablanca. L'AS Vita, les Congolais de Florent Ibengue face à El Masri, vous le disiez, un autre club égyptien. Voilà pour les Coupes d'Afrique des clubs. Un truc pas banal qui concerne le Gabon et cette sortie via Twitter incroyable de Pierre-Emerick Aubameyang. La semaine dernière, dans cette émission, on a réagi jeudi avec Annie sur la nomination officialisée la veille, le mercredi, de ce tandem Pierre Aubame, le papa de Pierre-Emerick, Daniel Cousin arrive à la tête des Panthères qui ont enfin réussi à virer Camacho après 17 matchs et 2 victoires. Donc voilà, bah, tout allait bien, on a commenté cette affaire. Et voilà que vendredi, notre ami Pierre-Emerick Aubameyang tweet en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi je ne viens pas en sélection? Vous vous demandez? Moi, je vais vous dire, parce que vous annoncez que mon père est d'accord pour devenir le sélectionneur. Vous l'avez appelé à Londres où il se fait soigner. Vous n'avez pas demandé de ses nouvelles. Vous lui avez juste demandé s'il était d'accord. Il a dit, je vous demande 24 heures de délai. Et 3 heures après, en gros, vous nous annoncez qu'il a dit OK. Alors que, il avait demandé 24 heures de réflexion pour, de toute façon, à l'arrivée, dire non. Il conclut, le jour où la fédération ne fera plus preuve d'amateurisme, l'équipe nationale pourra alors avancer et avoir des résultats plus cohérents.
Mais il a quand même 100% raison.
La Fédé Gafoute répond en disant oui. C'est le ministre qui nous a dit de nous dépêcher.
Non, mais c'est vrai. Ce qui s'est passé, parce qu'il faut savoir que c'est d'un ridicule absolu le foot au Gabon. Alors depuis l'histoire Camacho, on a déjà assez taillé. C'est d'un ridicule invraisemblable. Ouais, c'est un beau feuilleton d'ailleurs. Donc effectivement, il y a une pression entre ministère et fédération. Il faut pas oublier que le ministère c'est la tutelle, hein, de la fédération. Et alors ils se sont dit, on va vite annoncer, parce que c'était quand même dans les tuyaux depuis quelque temps, le fait qu'il y ait cette alliance entre Daniel Cousin et Pierre Aubame. Et puis ils se sont dit, allez, on va aller tellement vite, et ben qu'on a devancé l'appel simplement pour faire plaisir à la fédération. Au ministère. Donc la fédération a été ridicule sur ce coup, mais enfin c'est quand même pas la première fois au Gabon.
Et le ministère, ils doivent changer de ministre à peu près tous les 3-4 mois. Donc,
à peu près, on en avait connu d'ailleurs.
Oui,
on avait connu
une
ministre qui n'est plus ministre depuis.
Qui était incapable d'expliquer pourquoi du comment de ses choix.
Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation ubuesque avec une équipe qui est mal partie. Le match nul dernièrement. Absolument.
Et puis un match à la maison contre la Zambie, c'était gratuit. Il y avait personne au stade.
Donc mais pas plus qu'Aubameyang qui avait quitté ses partenaires trois jours plus tôt. Donc je veux dire, à un moment, il faut clairement les choses se remettre dans l'ordre. Je pense qu'avec Daniel Cousin, c'est quelqu'un qui connaît bien le pays, qui connaît bien les joueurs. J'espère que tous vont adhérer à son discours et qu'enfin, ils vont avoir quelqu'un de compétent à la tête de leur équipe nationale.
Et Pierre Aubame, c'est fini.
Pierre Aubame, a visiblement, c'est fini. Je crois qu'il a des problèmes de santé, Pierre Aubame surtout, et que ça n'est pas l'heure. Et donc voilà, on suivra ça via Twitter, puisque maintenant c'est comme ça que ça se passe. Un dernier mot, un commentaire rapide. Benjamin Moukandjo, on le connaît bien en France. Il est quand même passé par plusieurs clubs français, notamment Lorient en Ligue 1, et le voilà qui joue en Chine. Et le nouveau sélectionneur, Clarence Seedorf, assisté de Patrick Kluivert, a dit moi, les joueurs qui jouent dans les championnats exotiques là, pas très compétitif, ils auront en gros aucune chance de venir.
Totalement ridicule.
Et il n'a pas appelé Benjamin Moukandjo, quand même capitaine des Lions depuis quelques temps, et notamment lors du sacre.
Totalement ridicule. Méconnaissance absolue du football africain, je l'avais déjà dit ici, c'est qu'il va falloir qu'ils comprennent vite que le foot africain, c'est pas simplement des joueurs qui jouent en Europe, il peut y avoir des joueurs qui jouent ailleurs. Après, il y a d'autres choses à savoir, à connaître, notamment sur le terrain, les relations internes aux équipes. Et Moukandjo est quelqu'un d'adoré, qui a un état d'esprit remarquable, qui était capitaine de l'équipe qui a gagné la CAN, et on me dit parce qu'il joue en Chine, il peut pas jouer en équipe nationale du Cameroun. Enfin,
il y a Bassogog aussi, hein, qui entre parenthèses avait été élu joueur de la CAN 2017. Il joue en Chine aussi, donc il a aucune chance de revenir en sélection. Ça commence bien. On rappelle que le premier match de Clarence Seedorf dans la course à la CAN 2019, son premier match sur le banc, c'est un très brillant match nul aux Comores, hein, partout.
Et espérons qu'il va changer vite de logique et de logiciel.
Allez, on passe au livre. On n'a pas un jingle livre, Laurent Salerno. Ah, si on a un jingle livre, alors on écoute.
C'est fini! L'équipe de France est championne du monde!
Championne du
L'équipe
monde.
De France remporte son deuxième titre mondial après 98. Les Bleus sont sur le toit du monde!
Et regardez, ils sont tous ensemble!
Ramenez la coupe à la maison!
J'en ai des frissons de revenir au 15 juillet. On a retenu Antoine Grenier, puis un mec qui débute dans le métier juste derrière. Un jeune gars, bon bref, qui ira pas loin. Celui qui a ramené à la maison un livre, ben c'est vous, Vincent Garcia. Vous l'avez pas ramené à la maison. Enfin après, vous l'avez d'abord
seul,
écrit.
J'ai pas ramené tout seul.
Avec déjà. Arnaud Herman.
Voilà, exactement.
C'est quand même particulier de suivre une équipe pendant 6 semaines. Bon, vous travaillez pour l'équipe, donc tranquille le matin, pas trop vite l'après-midi. Le lendemain de la finale.
Dit-il alors qu'il voyageait dans toutes les villes de Russie.
On vous demande d'écrire un livre en 15 jours. C'est comme ça que ça s'est passé.
Exactement 10 jours.
Voilà. C'est un livre qui fait quand même 160
pages. Donc effectivement, comme vous dites, vu que j'ai rien fait pendant la Coupe du Monde, j'avais un peu de temps libre en venant, et j'avais la forme. Non,
mais ça se passe comment? Vous recevez un appel, on vous dit s'ils sont champions du monde, on fait, s'ils sont pas champions du monde, on
c'est
fait pas.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, la maison d'édition était ok pour faire un livre si évidemment les Bleus étaient champions du monde. Ce qui était la fin la plus heureuse, hein. Ouais. Et donc voilà, donc on attendait cette finale, et puis voilà, ils ont été champions du monde, et après il faut livrer les feuilles.
Oui, parce que vous vous retrouvez dans la solitude de votre maisonnée parisienne, et là vous écrivez.
Alors, vous voulez les détails en fait.
Ouais.
D'accord. Donc oui, dans la solitude de ma maison parisienne, et en Tunisie aussi, voilà, hein, pendant les vacances, puisqu'il fallait quand même bien voir les enfants, hein, quand on est parti 5 semaines,
Vous vous basez sur les notes. Sur les souvenirs, vous réussissez à joindre quand même des joueurs ou des agents dans cette période où alors ça part dans tous les sens.
Alors le plus
même.
Dur, il faut aller très vite. C'est-à-dire que pour joindre les personnes concernées, il faut les joindre dans les 2 jours. Sinon après, elles sont aux 4 coins du monde. Pendant 5 semaines, on les a fait chier déjà au téléphone la plupart, donc ils en ont un peu ras-le-bol de nous. Ils sont champions du monde, ils sont sur une autre planète, donc voilà, entre un qui est au Bahamas, l'autre à Dubaï, l'autre à Miami. Donc il faut les joindre très vite.
L'autre en Tunisie.
il faut les joindre très vite. Et puis on fait aussi avec ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on n'a pas forcément utilisé parfois.
Oui, ça fait partie du.
Donc voilà. Et puis on se débrouille comme ça et on essaye d'apporter quelque chose de nouveau aussi un peu.
Oui.
Quand même.
Mais il y a 2-3 petites choses quand même.
Merci.
La finale.
Une chose.
Il y a un homme qu'on aime bien. Il y a un homme qu'on aime bien qui s'appelle N'Golo Kanté et il est passé complètement à travers de la finale. On l'a tous constaté. Et le discours convenu depuis cette finale, c'est de dire il avait une gastro-entérite.
Non,
il était
malade. Il dit bon, il était pas bien 2 jours avant. On sentait qu'il était pas bien. Bon, la vérité, c'est qu'il a loupé sa finale. Ça arrive.
Il avait
ça
peur.
Arrive. Je veux dire, ça arrive au plus grand.
Il a cédé la pression.
La pression.
Enfin, il a, oui.
La pression, l'adversaire aussi, voilà, Modric, c'est pas n'importe qui.
Comme et quoi, puis, on peut s'occuper de Messi très bien et c'est plus compliqué.
Ça oblige Deschamps à revoir son coaching qui avait prévu de faire rentrer Adil Rami. Quand
exactement,
même, si
comme il
bien.
A dit, et qui fait rentrer Nzonzi. Et
qui a été très bon d'ailleurs.
Très bon, et pendant 10 minutes, la France reprend le contrôle.
Ouais. Vous racontez finale. Aussi, vous revenez sur ce débrief capital après France-Australie. Qu'est-ce qu'on s'est ennuyé à ce match? Et là, je pense que peu d'entre nous auraient mis une pièce. D'ailleurs, quiconque, qui aurait pu mettre une pièce après France-Australie?
Après France-Danemark aussi. Hein.
Après France-Danemark aussi. Mais France-Australie, il y a ce débrief. Alors, on en a beaucoup entendu parler de ce débrief. On l'a même vu dans un documentaire. On a bien vu qu'il n'était pas content, Didier Deschamps. Mais ce que vous racontez, c'est qu'une fois qu'il a quitté la pièce, les cadres ont refermé la porte. Exactement. Et là, parler entre hommes.
Exactement. Et donc les anciens, les plus anciens, donc les cadres ont pris la parole. Et ce qui a frappé, d'après les observateurs, c'est surtout le discours de Matuidi. Voilà, Matuidi qui est un des cadres de Deschamps et qui a pris la parole avec des mots forts. Voilà, qui a dit que les comportements étaient honteux. Voilà, il visait. C'est dur de dire ça, mais c'est la vérité. Il visait aussi des jeunes comme Mbappé. Voilà, qui ont été pointés du doigt par Deschamps. Et donc les cadres ont pris la parole et effectivement ça a eu de l'impact sur la suite, ouais.
Comme le match France-Argentine, il y a une causerie de Pogba aussi qui prend la parole.
C'est sa première causerie de la Coupe du Monde, oui. Sa première causerie contre l'Argentine. Jusque là, il avait fait du Pogba classique, et puis contre l'Argentine, il s'est révélé dans le discours du leader, quoi.
Voilà. Il voulait pas rentrer à la maison, il voulait continuer à manger ses, je peux pas dire le mot, pâtes, hein. Voilà. C'est mauvaise pâte, on va
c'est
dire ça comme ça.
C'est des pâtes et du poulet qu'on mange, les sols, c'est tout. Avec de l'huile d'olive. Voilà.
Mais eux, ils étaient prêts à sacrifier ça. La moustache de Rami était, l'équivalent du crâne de Fabien Barthez.
Moi, c'est connu. C'est connu, sauf que voilà, Rami, avant la finale, donc c'est Deschamps lui-même qui est venu lui tripoter la moustache, hein.
Mais alors, c'était quoi qu'est-ce qui a lancé ça? Alors, qu'est-ce qui est censé représenter cette moustache?
Alors, la moustache, c'est parti d'un délire, voilà, Mbappé et Griezmann, et qui, à chaque fois qu'ils ont touché la moustache, ils ont marqué. Voilà.
D'accord. Puis, parce que le crâne de Barthez, c'est un truc qu'on peut pas dire à la radio. Il y a une signification,
c'est
coquine qu'on peut pas expliquer dans une radio.
Je sais peut-être pas tout sur la moustache de Rami. Il y a peut-être des choses qu'on peut pas dire aussi sur la moustache
tout le temps.
Oui, aussi, oui.
Tout le temps.
Oui, il se la touche tout le temps.
Vous racontez qu'on s'amusait, on essayait de s'amuser à Istra. C'est pas tout à fait l'image qu'on avait, parce qu'à Istra, que ce soit les journalistes ou les joueurs, c'est
plutôt
ennuyé qu'autre
chose. Ah bah nous, on s'est plus peut-être que les joueurs, mais
les
pas...
joueurs ont l'air de s'être bien amusés, notamment Adil Rami.
Ouais, ils sont bien amusés.
Les joueurs.
Non, les journalistes.
Ah, les journalistes.
Mais les joueurs.
Les joueurs, non.
Il négocie une sortie une fois
non,
à Moscou.
Plusieurs sorties. Il y a eu deux trois sorties. Voilà. Et celle qui est restée un peu dans les mémoires, c'est à cause de l'histoire des pompiers qui sont arrivés avec les extincteurs de Rami.
Mais c'est-à-dire, quelqu'un vient réveiller Adil Rami, c'est-à-dire ou toquer à sa chambre.
C'est-à-dire qu'ils sont partis à Moscou. Ils sont partis à Moscou manger dans un restaurant. Pour la plupart, pas tous d'ailleurs. Au retour, ils sont un peu excités. Bon, ça chahute comme avant de dormir, voilà. Il doit être 2h-3h du matin quand même.
Il avait pris du vrai coca.
Et Rami, qui était dans sa chambre, voilà, les entend venir frapper à la porte pour essayer de le réveiller. Lui, bon, il dormait pas. Et ça faisait plusieurs jours qu'il embêtait un peu quand même à Rami, en venant le réveiller à des heures un peu improbables, bon, en venir chahuter les jeunes Mendy, Dembélé et compagnie. Et donc il avait prévu l'extincteur dans sa chambre, quoi. Il s'était dit, bon, si jamais ils reviennent, je sais comment les accueillir. Et ben voilà, il les a accueillis comme ça.
Et donc, ça a mis tellement de fumée que les pompiers ont débarqué.
Ah, il y a un problème quand tu utilises un extincteur.
Et Didier Deschamps n'était pas content.
Tout le personnel et les clients, en l'occurrence avec l'équipe de France, vous êtes obligés de sortir de l'hôtel, c'est le protocole sécurité.
Oui, parce que l'alarme se déclenche.
Et oui.
On apprend même que, sans doute, enfin on n'apprend pas, on savait, ça sera l'objet d'un débat, parce que ça fait beaucoup parler, cette histoire de Légion d'honneur, qu'on va sans doute remettre à l'équipe de France, comme on l'avait fait en 98. Là, il y a un vrai débat. On apprend plein de petites choses, il y a plein d'anecdotes. On rappelle Vincent Garcia, Arnaud Herman, La Deuxième Étoile, édition L'Archipel, le roman vrai de la victoire des Bleus. Rapidement.
Non, tu étais en immersion avec eux tout le temps?
Bah, avec eux, c'est difficile d'être en immersion, mais disons que oui, on était à Istra pendant 5 semaines, notamment avec Dominique, et d'accord. On faisait, oui,
ils discutent beaucoup entre eux, ces gens-là. Achetez ce livre, lisez-le. Nous, on se retrouve demain. La dame sera toujours en voyage, et nous, on sera avec Laurent Salerno et David Finzel, fidèle au poste.
Et où est-elle ?